Alors, j'aurais besoin d'une table à mettre devant, mais il n'y a pas de table libre pour la mettre devant. Une petite, toute petite table, ouais, une petite table de, voilà, carré là. Wow. Ça va? Alors, j'ai amené des choses. Et le but du jeu, c'est de trouver le point commun entre toutes ces choses, d'accord? Compresse de gaz stérile. Ah, d'autres compresses, mais voilà. Ah, j'aurais pu prendre le gel aussi. Quel est le lien entre toutes ces choses? À quoi servent-elles? Soigner, protéger, désinfecter, purifier, hein? Guérir, effectivement. Servent à tout ça. On sert des masques pour faire une barrière entre les autres et nous, parce que peut-être nous on est contaminés et on ne veut pas contaminer d'autres, peut-être qu'on a peur, on est fragile et on ne veut pas que les autres nous contaminent. Colette. Et on fabrique ça, des compresses stériles. Alors, elles ne sont pas fertiles, elles sont stériles. Ben oui. Parce qu'elles ne sont pas fertiles de microbes, de bactéries, de germes, etc. D'accord? Donc on les protège, elles sont. Et dès que je les ouvre et que j'utilise, elles sont fertiles. Et donc, il n'est pas recommandé de les utiliser sur des plaies ouvertes ou des choses comme ça, parce que ça peut créer des infections. D'accord? Et on utilise des produits désinfectants, d'ailleurs, pour tuer les germes, etc., et puis pour rendre les plaies pures et propres, ou des choses comme ça. Alors, celle-là, elle a... Ouais, 2022. Tu peux l'acheter. Non, pas la bétadine, ça se garde? Mais des fois, il y a des produits qui périment. C'est-à-dire ils rendent purs, hein, ils soignent, ils stérilisent un moment, puis mais si tu les gardes 2 ans, ils ne stérilisent plus du tout. Donc tu peux les balancer, les escamper. Si ma boîte de compresse, elle est mouillée, pareil, je l'escampe parce qu'elle ne peut pas tenir, quoi. Et en fait, nous, on vit dans un monde comme ça. On vit dans un monde où l'impur contamine le pur, où ce qui est stérile ne tient pas face à ce qui est fertile. Où la difficulté, c'est de garder les choses propres, j'ai envie de dire. Quand on fait des opérations graves, on va mettre la salle d'opération, on dit à pression positive, c'est-à-dire qu'il y a de l'air filtré, purifié, qui est insufflé dans la salle pour que par les portes, ça sorte, mais ça ne rentre pas. Pour garder le microbe entre guillemets dehors. Et nous-mêmes, voilà, on a cette relation au monde. Parfois même, on veut garder le mauvais en dehors de nos pays, de nos frontières. On a cette relation au monde. Et parfois, cette relation au monde, en fait, elle rentre dans notre cœur. Et selon qui on est, ce qu'on vit, on va se sentir impur, sale, souillé, dégradé, dévalorisé, et on va s'écarter, on va arrêter de se mélanger avec ce qui est pur ou digne, ou... parce que c'est comme ça que le monde fonctionne autour de nous. N'est-ce pas? Et dans notre relation à Dieu, parfois aussi, on va avoir tendance à penser les choses comme ça. Ou voilà, cette semaine, par exemple, je ne sais pas ce que vous avez fait, vous avez péché, et vous avez manqué, vous avez la profonde conviction de ne pas avoir été à la hauteur. Et peut-être il y a cette Bible qui est là, et vous ne voulez pas l'ouvrir. Ou cette réunion avec les frères et vous ne vous sentez pas à votre place. Et tout un tas d'occasions. Ou peut-être, voilà, je sais pas, ce matin-là, vous étiez de liturgie et vous dites vraiment, mais ce n'est pas à moi d'être derrière ce micro. Parce que quand on est impur, on se tient à l'écart du pur. Et je vais vous lire deux textes, même trois peut-être. Le premier, c'est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6. Il s'agit de la vocation du prophète Ésaïe. C'était l'année de la mort du roi Ozias. C'est Ésaïe qui parle. Je vis le Seigneur assis sur son trône, un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Et l'un criait à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint à l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et les soubassements du seuil frémissaient à la voix de celui qui criait et la maison du temple se remplit de fumée. Alors moi je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une des braises qu'il avait prises sur l'autel de Dieu avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Première lecture. Ésaïe a peur parce qu'il se retrouve face à Dieu et qu'il est impur et que Dieu est trop pur. En général, quand ça se passe comme ça, on crame, on brûle, on survit pas à ça. Mais Dieu purifie celui qui est impur pour que celui qui est impur puisse se tenir dans sa présence, pour que celui qui est impur puisse le servir. La suite du texte. Et le Seigneur qui se tourne vers sa cour, là, angélique, et puis qui fait semblant de se poser des questions. « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Et là, il y a Ésaïe qui fait « Moi, moi, moi !» Et « Envoie-moi !» Parce qu'il est tellement content d'avoir été purifié, d'avoir été rendu digne malgré lui, qu'il n'a qu'une envie, c'est de servir ce Dieu qui l'a délivré. Deuxième lecture qu'on va lire est dans l'évangile de Marc. Au chapitre 5, c'est une double histoire entremêlée. Il y a la résurrection de la fille de Jaïrus et il y a une autre guérison qui a lieu en ce moment-là. Je lis au verset 21. Jésus regagna une barque, embarque l'autre rive. Une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui le vit et se jeta à ses pieds en le supplia instamment en disant « Ma fillette est à toute extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt, en lui-même, qu'une force était sortie de lui. Et il se retourna au milieu de la foule et dit, « Mais qui a touché mes vêtements ?» Et ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui nous presse et tu dis, qui a touché mes vêtements ?» Il regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Je m'arrête là. Bon, la fille de Jaïrus sera guérie, je vous spoil pour ceux qui se demandaient. Mais je m'arrête là parce que c'est tout ce qui m'intéresse. Il y a un parallèle entre ces deux textes. Ésaïe avait terriblement peur de mourir en présence du Dieu pur. Et là, cette femme était atteinte de saignement. Elle était donc religieusement impure et interdite de se mêler à la foule, interdite de participer aux activités collectives, proscrite paria. Elle ose traverser une foule pour venir toucher Jésus. Ce qui techniquement devrait rendre toute la foule impure et Jésus aussi dans l'eau. Sauf que ce n'est pas Jésus qui est contaminé par l'impureté, c'est elle qui est contaminée par la pureté de Jésus. Et elle est guérie. Et Jésus le sent. Et elle se jette à ses pieds pour lui dire, c'est moi, j'ai osé te toucher. Il y a là un grand principe qu'il nous faut comprendre, c'est que dans notre monde déchu, effectivement, on pourrait dire que oui, l'impur gagne sur le pur. On pourrait même dire le mal gagne sur le bien. Ou, voilà. Enfin, on sent qu'on vit dans cette lutte de garder le mal, l'impur et de... Dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse. Dans le royaume de Dieu, dans le règne des cieux, c'est le pur qui chasse l'impur. C'est le pur qui transforme, qui purifie l'impur. Et c'est ce qu'on voit, et c'est pour ça que quand Jésus débarque, il brille d'une... Il y a des démons qui apparaissent partout, il y a des malades qui sont guéris, il y a cette femme qui le touche et qui est guérie. Et le pur délivre l'impur. Aujourd'hui, quelle est votre relation avec Jésus? Quelle est notre relation avec Jésus? Le Seigneur, en fait, pour nous faire tenir en sa présence, a accompli quelque chose de merveilleux. Il a décidé de faire sa demeure en nous. Il nous a donné l'Esprit Saint. Il nous a donné sa nature même. Ce qui fait que toutes celles et ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ils ont reçu en eux un petit bout de terrain absolument incorruptible, qui ne peut jamais devenir impur. Jamais. Il n'y a rien que vous fassiez, que vous soyez, qui ne peut corrompre ça. Ce greffon de Jésus qui a été planté en vous par le Saint-Esprit. Croyez-le. Première chose. Deuxièmement, même si ça c'est vrai en vous, ce n'est pas impossible qu'au niveau de nos mécanismes de pensée, quand je pêche, quand j'ai une grosse engueulade avec mon conjoint, si je craque pour de la pornographie, si je triche sur les impôts ou si j'ai des relations avec les collègues qui sont bien toxiques et je me suis mise avec eux pour me moquer du petit nouveau qui vient d'arriver ou j'en sais rien. Je vous laisse avec votre conscience. Elle vous aidera à trouver Pas de souci. Vous vous sentiez corrompu, indigne, pollué, intoxiqué ou tout ce que vous voulez. Et qu'à ce moment-là, en fait, réussir à aller jusqu'à la prière, réussir à aller jusqu'au culte, vivre la communion fraternelle avec les frères et sœurs ou tout ce genre de choses-là, j'ai la réaction d'Ésaïe. Malheur à moi, parce que je suis impur. Et on est fort pour ça, et puis on va passer par des processus d'auto-flagellation et d'auto-purification et d'astreinte et d'ascèse où on va expier. Il faut passer par des choses pour se purifier, vous savez. Il faut mériter, il faut faire amende honorable, il faut prouver qu'en fait on regrette vraiment. Mais on ne peut pas retourner voir Dieu tout de suite. Ça serait trop face. Hein? Et pourtant, toutes ces choses sont profondément inutiles, d'abord, fausses, parce qu'elles ne marchent pas, et qu'elles supposent une mauvaise compréhension de qui est Dieu, et dangereuses, parce qu'elles vous gardent loin de Dieu. Venez à ce petit foyer que Dieu a déposé dans votre cœur, où en fait tout reste pur. Et venez vous dire, venez voir, venez sentir, venez saisir, venez vous emparer de « Tu ne m'as jamais quitté. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu m'aimes d'un amour inconditionnel. Tu m'as adopté et je suis ton enfant, quoi qu'il arrive. » Et déjà, ton pardon m'avait couvert. Pas besoin de ça. Pas besoin de quitter l'impur pour regagner un état de pureté dans lequel je pourrais me tenir dans la présence de mon Dieu très saint. Vous ne le savez pas, mais vous ne l'avez jamais quitté, sa présence. Il ne vous a jamais quitté. Dans notre monde, à nous, l'impur gagne sur le pur. Dans le royaume, c'est le pur qui est invincible. Et le royaume est en nous si l'Esprit de Dieu vit en nous. Jean écrit ceci dans la première épître. C'est un peu complexe, hein, mais voici le message que nous avons entendu de Dieu et que nous avançons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ. Bien sûr que nous commettons des péchés, mais ça va peut-être vous paraître bizarre, mais nous ne sommes plus des pécheurs. Parce que cette pureté que Christ a placée en nous, en fait, elle est inamovible, elle ne bouge plus, elle est éternelle jusqu'à votre résurrection et après. Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait n'est pas mal et ne fait pas du mal. Ça fait du mal à nous, ça fait du mal à nos relations, ça participe au mal de ce monde. Je vous encourage à vous rappeler qu'il n'y a pas de péché qui ne fasse du mal qu'à moi. Tout comportement toxique que je vais avoir vis-à-vis de moi-même aura des conséquences sur tous mes proches. Et à l'inverse, tout comportement vertueux que j'aurai vis-à-vis de moi-même aura des bonnes conséquences sur tous mes proches. Il n'y a pas de péché purement individuel qui ne regarde que moi et Dieu. Ça n'existe pas. Et donc voilà, de vous dire qu'il y a cette réalité spirituelle où en fait je peux trouver en moi ce lieu où, Seigneur, Tu m'as déjà pardonné. Seigneur, je suis encore pur. Que cette petite pureté que tu mets tout le temps en moi me libère de toute cette culpabilité, de tous ces raisonnements d'auto-justification, d'expiation, de culpabilisation pour mériter que. Parce que c'est faux. Parce que ça ne sert à rien. Voire même c'est dangereux. Souvent, on constate comme ça que la façon dont fonctionne le royaume, c'est l'inverse de la façon dont fonctionne le monde. Dans le monde, c'est les petits qui sont au service des grands et les faibles qui doivent obéir aux forts. Dans le royaume de Dieu, c'est les forts qui se mettent au service des faibles et c'est les grands qui sont les esclaves, les petits. Et servir, ça veut dire régner dans le royaume. Et dans le monde, servir, ça veut dire, pardon, régner, ça veut dire se faire obéir. Dans le monde, pardonner, c'est faire la carpette et demander pardon, c'est être humilié. Dans le royaume, celui qui sait demander pardon est sage et celui qui pardonne est grand. Et dans le royaume, le pur gagne sur l'impur et dans le monde, c'est l'impur qui semble gagner. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin et vous encourager à vous exercer à ça, le cas échéant, quand vous avez ce sentiment d'indignité, quand vous avez ce sentiment d'avoir failli et que vous devez vous exclure, vous bannir, vous mettre à part, vous mettre de côté, quand vous avez, peut-être ça va venir parfois même, osons le dire, de frères et sœurs de l'Église qui vont vous tacler. Oui, si, bien sûr que ça arrive, pas à Beauvert, mais ça arrive. Je peux condamner le comportement de chrétiens, mais je n'ai pas le droit de dire qu'ils ne sont pas des chrétiens. Je ne peux pas juger de votre état spirituel. Je ne peux pas juger de ce que vous vivez avec Dieu. Je ne peux pas juger de ce qui se passe entre vous et le Saint-Esprit. Je n'ai pas le discernement pour ça. Mais je peux vous dire, les paroles que tu as dites ne sont pas celles d'un chrétien. De la même manière qu'on dit à un enfant, ce que tu fais est méchant, plutôt que de lui dire, tu es méchant. Donc je peux dire, ton comportement n'est pas celui d'un chrétien, mais je ne peux pas dire, tu n'es pas chrétien. Gardez cette profonde vérité. Je vous termine avec ce passage de l'Épître aux Romains au chapitre 8. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non de la chair, pour vivre encore... Pardon. Verset 10. Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, reste mortel à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et aussi, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et nous le sommes. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Certains me diront peut-être, mais c'est trop face, parce que du coup, je peux pécher tout ce que je veux, et de toute façon, ça ne change rien. Oui, d'un certain côté, on peut dire ça, ça ne change rien. Vous ne perdrez pas votre salut. Si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous ne perdrez plus votre salut, plus jamais. Mais vous continuerez à faire du mal. Ce n'est pas parce que ça ne vous fait pas déchoir de la grâce de Dieu que ça ne fait pas du mal autour de vous, en vous. Et Si tant que si dans mon cœur je me dis ben, je peux faire du mal puisque je n'ai pas de sanction, si c'est comme ça que je fonctionne, c'est qu'il y a bien peu de vertu dans mon cœur. Et je doute avoir compris qui est Dieu à ce moment-là. Mais je pense que pour toute personne qui est réellement née de nouveau, qui a vraiment reçu ce Saint-Esprit, cette grâce, au contraire, est un formidable soulagement parce que j'ai plus besoin de mériter. J'ai plus peur d'être rejeté. J'ai la certitude d'être aimé pour toujours. Il n'y a pas meilleur cadre dans ma vie pour grandir à l'image du Christ. Alors, n'abusons pas de la grâce, ne gaspillons pas la grâce, mais réjouissons-nous d'elle profondément et vivons en pleine confiance que Dieu nous aime d'un amour éternel. Amen.